Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, je devrais en principe aujourd'hui, je crois, terminer le chapitre 14 de Saint Jean. Nous en sommes sur le polycopier qui couvre les commentaires des Pères de l'Église pour les chapitres 11 à 15. Nous en sommes à la page 30, en bas de la page, avec les versets 12 à 14 de Saint Jean, chapitre 14. Je vous relis ce texte. Croyez-le du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous me demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce passage est évidemment très important sur la prière. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, soit à mon Père, verset 13, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Mais verset 14, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, ici, c'est l'importance de la prière. Souvent, les gens utilisent ce verset pour me dire, mais monsieur l'abbé, on demande des choses au bon Dieu et il a promis qu'il réaliserait tout ce qui est demandé, mais souvent, moi, je n'ai pas été exaucé dans ma prière. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Il est évident que Dieu ne répond pas à toutes les prières de façon automatique. Il faut encore que ce soit bon pour nous. Donc, quand on demande quelque chose au bon Dieu, on a le droit de demander bien des choses au bon Dieu. Mais il faut toujours dire, mon Dieu, si c'est telle est votre volonté, je vous demande telle chose, j'aimerais obtenir telle chose, si c'est bon pour moi. Vous voyez, le bon Dieu, imaginez la pagaille dans le monde si le bon Dieu devait obéir littéralement à toutes les prières qui lui sont faites. Parfois, les prières que nous faisons ne sont pas bonnes pour nous et Dieu ne les exauce pas parce que ce n'est pas bon pour nous. Je suis malade, par exemple. Mais cette maladie va me permettre de me sortir d'une occasion de péché. Je demande la guérison, mais ce n'est pas bon pour moi. Parce que si je guéris, je vais retomber dans le péché. Donc le bon Dieu, parfois, permet que je reste dans le péché afin de me convertir. Combien de jeunes ont fait des prières au bon Dieu, ou au Dieu le Père, ou à Dieu le Fils, ou à la Sainte Vierge Marie, en disant, voilà, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir mon examen. Et puis, ils n'ont pas travaillé pour obtenir cet examen. Ils ne méritent pas d'avoir l'examen. Et mon Dieu ne va pas exaucer la prière comme ça. Les pères de l'Église vont jusqu'à dire que Dieu exauce parfois les demandes matérielles de bandits pour les remercier ici-bas, les récompenser ici-bas, ici-bas du bien matériel qu'ils ont pu faire. Il y a des bandits qui sont des crapules de première sur plan moral, mais qui ont pu faire quelques biens sur plan physique, sur plan matériel. Par exemple, ils ont organisé une soupe populaire pour les pauvres avec leur excédent financier. Bon, peut-être qu'ils l'ont même fait simplement pour avoir payé moins d'impôts, par exemple, pour avoir des avantages fiscaux. Mais ils ont quand même aidé certains pauvres à ne pas mourir de faim. Bon, c'est mieux que rien. Qu'est-ce que ça va leur valoir sur le plan moral, sur le plan personnel pour le salut de leur âme? Sans doute pas grand-chose, voire même rien du tout. Parce que s'ils vivent en tas de péchés mortels jusqu'au cou, ce n'est pas la soupe populaire qu'ils ont donnée à des millions de pauvres qui va leur permettre d'aller au ciel. S'il meurt en état de péché mortel, ce sera l'enfer, comme pour tous ceux qui meurent dans cet état-là. Cependant, le bon Dieu qui sait qu'il ne pourra pas les récompenser plus tard au ciel, les récompense ici-bas pour les biens matériels qu'ils ont pu faire ici-bas. Alors voyons un petit peu le commentaire des pères en bas de la page 30 et page 31. Notre Seigneur venait de dire à ses disciples, croyez du moins à cause de mes œuvres. Il veut leur apprendre maintenant que non seulement il peut faire des œuvres semblables, mais qu'il peut en faire de plus grandes. Et, ce qui est encore plus admirable, qu'il peut communiquer à d'autres ce pouvoir. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais, en fera encore de plus grandes. Il y a des saints qui ont fait certains miracles que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'avait pas fait. Vous savez, des grands saints comme par exemple Saint Vincent Ferrier, Saint François Xavier ont fait des quantités invraisemblables de miracles, ont certainement fait plus de miracles dans leur vie que notre Seigneur Jésus-Christ en a fait ces 3 ans de vie publique, peut-être, c'est possible. Mais n'oublions pas que ces miracles ont été faits au nom du bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ faisait les miracles en son nom propre. Passons à la page 31. En cela, nous faisons les œuvres de Jésus-Christ, car c'est faire l'œuvre de Jésus-Christ que de croire en lui. C'est une œuvre qu'il fait en nous, non toutefois sur notre concours. Entendez donc bien le sens de ces paroles. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je les fais le premier, il les fera après moi, parce que je ne les fais le premier que pour qu'il les fasse à mon exemple. Donc Dieu permet que certaines personnes reproduisent les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les plus grands des miracles ne sont pas forcément ceux qu'on voit. On est très sensible à certains miracles. Évidemment, qu'un grand thaumaturge veut faire, imaginez quelqu'un qui guérit miraculeusement un malade, un grand saint qui guérit miraculeusement un malade au nom du bon Dieu, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on réalise, par exemple, que le système du monde, l'organisation du monde, de toutes ces planètes qui tournent autour de la Terre, de tout le Soleil qui tourne autour de la Terre qui est au centre de tout, et puis tous ces soleils, les galaxies, qui, tout ça tourne autour de la Terre sans collision, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez une graine que vous mettez en terre et qui donne un arbre, qui va donner des fleurs et des fruits, c'est un miracle, c'est pas un miracle en tant que tel, strictement parlant, parce que c'est selon la loi naturelle, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on réagit en voyant un miracle extraordinaire, on ne voit pas toutes ces espèces de miracles qui se font tous les jours dans la création. En plus de ça, est-ce qu'on réalise que de pardonner les péchés, par exemple, on va voir certaines citations des pères là-dessus, pardonner les péchés, c'est un miracle bien plus grand que de créer le ciel et la terre. Et Dieu a permis aux prêtres, donne aux prêtres le pouvoir de pardonner les péchés. Quelles sont ses œuvres ? La justification du pécheur, c'est ce que le Christ opère dans le pécheur, mais avec le concours de sa volonté. Or, c'est là une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre, car le ciel et la terre passeront, mais le salut et la justification des prédestinés demeureront à jamais. Est-ce qu'on réalise cela ? La justification d'un pécheur est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre. C'est énorme, et pourtant c'est vrai. Quand on voit, ça m'est arrivé plusieurs fois, évidemment, en tant que prêtre, ça m'arrive même assez souvent, surtout au cours des retraites, de voir par exemple des gens qui viennent faire les retraites, qui préparent une bonne confession générale. Certains d'entre eux ne sont pas confessés parfois depuis des années et des années. On les voit rentrer au confessionnal, vraiment dans une misère morale noire, littéralement, parce qu'ils ne se sont pas confessés depuis des années, que par exemple, ils ont vécu dans le péché pendant des années et des années. Ils font leur confession, ils accusent leur confession. Ils accusent leur péché avec beaucoup de générosité, avec un grand désir de plaire au bon Dieu. Ils ne cachent rien, ils avouent tous les méfaits qu'ils ont fait dans le passé. Ils regrettent leur péché, ils ont une véritable contrition. Ils sont prêts à modifier ce qu'il faut modifier pour qu'ils ne retombent pas. Donc ils vont éviter maintenant les occasions prochaines volontaires de péché mortel. Ils vont rattraper, ils vont réparer. Donc il y a l'accusation, la contrition, la réparation. Dieu, par le prêtre, donne l'absolution. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le prêtre pardonne les péchés. Et l'homme qui quitte, cette âme quitte le confessionnal complètement régénéré. Une âme toute noire qui devient toute blanche. Une âme qui ressemblait à un cadavre en décomposition en plein soleil sur la place du village, comme disait Saint-Curé d'Ars, et qui maintenant ressemble à un magnifique diamant qui brille de tous ses feux sous l'éclat du soleil. C'est magnifique. Alors on voit les miracles extérieurs, on ne voit pas ces miracles intérieurs. ces résurrections, ce qu'on appelle une résurrection spirituelle. Donc on est très frappé, par exemple, de la résurrection de Saint-Lazare ou du fils de la veuve de Naïm. Très bien. Est-ce qu'on réalise que la résurrection de quelqu'un qui ne s'est pas confessé pendant 20 ans, 30 ans ou 40 ans et qui retrouve l'état de grâce après 40 ans de péché est un miracle plus grand que la résurrection de Lazare, de Saint-Lazare ou la résurrection du fils de la veuve de Naïm? Là, j'ai mis une belle phrase des pères en caractère gras, page 31, parce qu'elle est magnifique. Que celui qui en est capable juge, si la création des justes est une œuvre plus grande que la justification des pécheurs. Si l'une et l'autre de ces deux œuvres annoncent une puissance égale, la seconde exige une plus grande miséricorde. Donc Dieu est encore plus grand, c'est un mystère ça. Dieu est encore plus grand quand il exerce sa miséricorde que quand il exerce sa justice. Dieu, par sa nature même, ne veut qu'une seule chose, c'est pardonner aux pécheurs repentants. Mais Dieu ne va pas pardonner aux pécheurs non repentants, parce que ça serait une injustice. Et Dieu est parfaitement juste. Il est le bon Dieu. Qui dit bon Dieu, dit juste Dieu. Et si Dieu pardonnait aux pécheurs non repentants, qui n'a pas l'intention de changer de vie, ben, il est évident que Dieu ne serait pas Dieu. Là, c'est une chose importante à comprendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Comment, monsieur l'abbé? Moi, j'ai souvent ces remarques de catholiques peu fervents, pas des catholiques de tradition, parce qu'ils comprennent ces choses-là. Et en dehors de ça, ils comprennent plus facilement. Parfois, certains catholiques un peu superficiels me disent, monsieur l'abbé, mais j'explique, ils m'interrogent, par exemple, monsieur l'abbé, la confession, vous pardonnez tous les pécheurs? On pardonne aux pécheurs au confessionnal, je réponds, si le pécheur regrette ses péchés. Mais si quelqu'un vient se confesser, c'est qu'il regrette? Non. Parfois, il prétend regretter, mais il ne regrette pas. Par exemple, si quelqu'un vient se confesser et qu'il garde une occasion volontaire prochaine de péché mortel. Vous ne donnez pas l'absolution dans un cas comme ça? Bien sûr que non, je n'ai pas le droit de donner l'absolution. Si je donnais l'absolution à quelqu'un qui gardait volontairement une occasion prochaine volontaire de péché mortel, mon acte absolution serait invalide. Et en plus, c'est moi qui commettrais un péché mortel. Vous voulez aller en enfer, allez-y, mais ne comptez pas sur moi pour vous accompagner. Ils sont scandalisés, ces gens. Comment? Mais pour qui vous prenez? Vous n'avez jamais le droit de refuser l'absolution. Et comment donc on a le droit de refuser l'absolution? Non seulement on a le droit de refuser l'absolution, on a le devoir. L'exemple classique, c'est une personne qui vient se confesser et qui avoue un péché d'impureté répété avec une autre personne, puis on interroge un peu, puis on se rend compte qu'en fait il vit en concubinage avec cette jeune fille, avec une femme par exemple, ou qui vit avec une femme qui est l'épouse du voisin. Bon, eh bien il est évident qu'on ne peut pas donner l'absolution tant qu'il ne décide pas d'arrêter de pécher. Il faut qu'il rende le produit de son vol. Il a volé l'épouse de son voisin, il faudra peut-être lui rendre. Bon, il vit en concubinage avec sa petite copine, comme on dit. Bon, et tant qu'il vit comme ça, il est évident qu'il ne peut pas recevoir l'absolution. Il faut qu'il arrête de vivre, dans le péché, puis à ce moment-là, il pourra recevoir l'absolution. Donc, dans certains cas, le prêtre doit demander aux gens de patienter. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc je répète cette phrase magnifique, que celui qui en est capable juge si la création des justes est une œuvre plus grande que la justification des pécheurs. Et si l'une et l'autre de ces deux œuvres annoncent une puissance égale, la seconde exige une plus grande miséricorde. Dieu est plus grand en exerçant sa miséricorde qu'en exerçant sa justice. Dieu est plus grand en pardonnant aux pécheurs repentants qu'en créant le ciel et la terre. Mettez-vous ça dans la tête. Peut-être n'a-t-il voulu parler que des œuvres qu'il opérait alors? Et en ce moment, il ne faisait qu'enseigner la doctrine de la foi. Or, enseigner la doctrine de la justice, ce que Jésus a fait pour sans nous, c'est faire moins que de justifier les pécheurs. Ce qu'il a fait en nous et qu'on concourt de notre volonté. Avec une faute d'orthographe encore qu'il faut que je corrige. Encore une phrase à méditer. Enseigner la doctrine de la justice, c'est faire moins que de justifier les pécheurs, ce qu'il a fait en nous et que concourt de notre volonté. Parce que la doctrine de la justice, le bon Dieu l'a fait sans nous. Vous voyez? Donc encore une fois, la miséricorde est plus grande que la justice. Mais attention, ça ne veut pas dire que la miséricorde est séparée de la justice. Justice et miséricorde sont comme les deux doigts d'une même main, donc il faut les deux. Saint Augustin pense que les plus grandes œuvres furent la conversion des nations du monde par 12 apôtres. car le Christ convertit directement un plus grand nombre, un plus petit nombre, à peu près 500 personnes, pensent certains pères de l'Église. Je ne sais pas si c'est une fois, je pense que c'est saint Augustin qui dit ça. Mais certainement qu'une des plus grandes œuvres fut la conversion des nations du monde. Imaginez 12 personnes peu éduquées, naturellement parlant, comme les 12 apôtres, qui partent à la conquête du monde et qui vont prêcher une morale qui s'oppose en tout à la morale des païens, la morale des barbares, et qui pourtant vont conquérir le monde et qui en plus vont tous passer à la casserole pour conquérir ce monde. Ils vont tous mourir martyrs, sauf Saint Jean, mais qui est quand même martyr parce qu'ils ont essayé de le tuer à Rome. Les juifs ont essayé de le tuer à Rome, je vous ai déjà expliqué. Donc il faut méditer là-dessus. Saint Jean Chrysostome pense que la plus grande œuvre fut pour Saint Pierre de guérir les malades par le simple contact avec son ombre, ce que le Christ ne fit pas, en tout cas pas directement. Que les prélats et les supérieurs religieux apprennent ici du Christ de garder pour eux les offices les plus humbles et de laisser à leurs inférieurs les plus grands et les plus honorables. Ils feront de plus grandes choses par leurs sujets que par eux-mêmes. Ce qui est fait par le sujet considéré comme étant fait par le supérieur. On voit très bien chez les saints s'effacer complètement devant Dieu. On le voit très bien, par exemple, moi ça me frappe toujours quand je relis les textes de saint Thomas d'Aquin, notamment sur ses commentaires sur l'Écriture sainte à partir des pères de l'Église, comme la chaîne d'or de saint Thomas. Il n'y a pas un mot de saint Thomas, c'est uniquement les pères. Tout a été reproduit à partir de la patrologie grecque et la patrologie latine qu'il connaissait par cœur. De mémoire, il a tout fait. Il s'efface complètement. Oui, les saints savaient s'effacer pour laisser Dieu agir. Pensez au saint curé d'Ars qui cachait tous ses miracles derrière sa dévotion à sainte Philomène. Il prétendait qu'à chaque fois qu'il faisait un miracle, ben, c'était sainte Philomène qui le faisait. Il renvoyait un enfant paralysé en disant « Allez prier devant la statue de sainte Philomène ». Et puis, au pied de la statue de sainte Philomène dans l'église, l'enfant était guéri. Et à chaque fois, le Saint-Guerre disait « C'est sainte Philomène qu'il faut remercier, c'est pas moi ». Pourtant, c'était lui qui avait obtenu le miracle. Saint Ignace, fondateur de la compagnie de Jésus, alors qu'il était supérieur général, catéchisait le peuple et laissait à ses compagnons les honneurs des grands pupitres. Et donc, n'oublions pas que à la base de la conservation de la foi, il y a la vertu d'humilité. À la base de la conversion personnelle, il y a la vertu d'humilité. Dieu exige l'humilité. L'orgueil est donc le plus grand obstacle à la conversion du monde. Si le monde moderne ne se convertit plus, c'est que le monde moderne n'est capable de donner que trois choses. Les honneurs, l'orgueil et l'argent. C'est la franc-maçonnerie qui donne ça. Rentrez à la franc-maçonnerie, qu'est-ce que vous obtenez? De l'argent, des honneurs et l'orgueil. Voilà. C'est tout ce que peut donner le monde. Et ça empêche le travail de la grâce. Tant que quelqu'un est dans les honneurs, dans la recherche des honneurs, la recherche de l'argent, de façon déraisonnable, la recherche de l'orgueil, rien ne peut être fait dans cette âme. Cette âme, c'est comme fermée à double tour. La grâce du bon Dieu ne peut rien faire parce que la grâce du bon Dieu ne détruit pas la volonté propre. Vous voyez ? La grâce ne détruit pas la nature. Il faut un minimum d'humilité pour que la grâce du bon Dieu puisse passer. Bon, certes, le bon Dieu parfois peut faire des grands miracles. C'est le cas avec saint Paul, c'est le cas avec saint Matthieu, par exemple, surtout avec saint Paul. Saint Paul, qui est plein d'orgueil, saint Matthieu, il l'appelle, il était chargé des finances, et puis Matthieu, suis-moi. Et Matthieu se lève, saint Matthieu se lève et suit notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul ne respirait que haine contre l'Église catholique. Et il est précipité de son cheval sur la route de Damas, sur le chemin de Damas. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc attention à cette vertu d'humilité. Souvent, lorsque nous avons du mal à nous convertir, c'est qu'il manque l'humilité. Donc demandez cette grâce. Et je vous en supplie, comprenez que la miséricorde est quelque chose de plus grand que la justice. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne tous les péchés du moment qu'on les regrette. Et qu'on prend les moyens, attention. Qu'on regrette et qu'on prend les moyens de ne pas recommencer. Donc il faut la fuite des occasions prochaines volontaires de péché. Pour se convertir, il faut la prière, l'usage des sacrements et la fuite des occasions prochaines volontaires de péché grave. On avance versets 15, 16 et 17 du chapitre 14 de saint Jean, page 31. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaîtrez parce qu'il demeurera avec vous, qu'il sera en vous. Voilà encore une fois comment notre Seigneur Jésus-Christ là s'épanche, il ouvre son cœur, il ouvre, il parle plus en parabole cette fois-ci, il parle directement au cœur des apôtres, le Sacré-Cœur qui parle au cœur des apôtres. Je prierai, disent les pères, comme inférieur pour mon humanité, mon Père, à qui je suis égal et consubstantiel par ma nature divine. Donc, par sa nature divine, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, est égal au Père. Mais par sa nature humaine, il est inférieur au Père. C'est pour cela qu'il y a, notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai souvent déjà expliqué, une double intelligence et une double volonté. Une double intelligence, puisqu'il y a une intelligence divine, une intelligence humaine. Une double volonté, une volonté divine, une volonté humaine. Mais l'intelligence divine, humaine, pardon, est parfaitement soumise à l'intelligence divine. La volonté humaine est parfaitement soumise à la volonté divine. C'est la seule façon de comprendre certaines paroles qu'on verra plus tard dans la Passion. Seigneur, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Comment Dieu peut-il dire une chose pareille? Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, a été abandonné par son Père? Bien sûr que non, puisqu'il est Dieu, lui-même. Il semble avoir été abandonné par son Père, ce plan humain. Parce que, bien qu'étant Dieu, il accepte de souffrir les affres de la Passion. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ est rentré en agonie. Dans le Jardin des Oliviers, il est rentré en agonie. « Mon âme est triste à en mourir. Comment Dieu peut-il entrer en agonie ?» Il n'est pas entré en agonie en tant que Dieu, bien entendu. Il est entré en agonie en tant qu'homme. Autre phrase, autre commentaire de Saint Jean Chrysostome. Il leur promet que l'Esprit Saint demeurera avec eux éternellement, parce qu'il ne le quittera même pas après leur mort. Il leur enseigne indirectement par là même que l'Esprit Saint ne doit ni souffrir la mort comme lui, ni se séparer d'eux. Et pour éloigner de leur esprit la pensée d'une nouvelle, de leur esprit, la pensée d'une nouvelle incarnation qui rendrait le Saint-Esprit visible à leurs yeux, il agite l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Encore une fois, pourquoi on ne voit pas, ne possède pas cet esprit de vérité? À cause de l'orgueil. C'est pour ça qu'il dit que le monde ne peut recevoir cet esprit de vérité, parce qu'il ne le voit pas, qu'il ne le connaît pas. Il ne connaît pas, le monde ne peut pas connaître notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est invisible pour ceux qui sont de l'orgueil. L'orgueil est le plus grand obstacle à la conversion. Texte de saint Augustin. Cet Esprit Saint est une des personnes de la Sainte Trinité. La foi catholique le proclame consubstantiel et éternel au Père et au Fils. Donc, consubstantiel, c'est-à-dire la même substance. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais un seul Dieu en trois personnes. Un grand mystère. Quant aux dons sans lesquels il est impossible de parvenir à la vie, l'Esprit Saint demeure dans tous les élus. S'il s'agit au contraire des dons qui ont pour objet non de conserver mais de produire dans les autres la vie surnaturelle, il ne demeure pas toujours. Quelquefois, en effet, il suspend le pouvoir d'opérer des miracles pour que l'humilité garde plus sûrement les vertus qu'il inspire. Jésus-Christ, au contraire, jouit toujours et en toutes circonstances de la présence de l'Esprit-Saint. Ce qu'on voit très bien chez certains grands saints, parfois une désolation terrible. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est tombée en désolation pendant de longues années, quand elle était au couvent. À Lisieux, elle avait l'impression d'être dans un tunnel complet. Certains grands saints sont passés par des nuits d'essence ou des nuits de l'esprit très très longues. On a l'impression d'avoir perdu la foi. C'est une épreuve que Dieu réserve à ses grands saints, justement pour les purifier. Il leur supprime, si vous voulez, toutes les consolations sensibles, et même au bout d'un certain temps, pour les faire passer en voie native, il leur supprime aussi toutes les consolations intellectuelles. On a l'impression d'avoir perdu Dieu. C'est terrible d'avoir cette impression d'avoir perdu Dieu. Bon, nous, évidemment, on est des petites engeances, en tout cas pour moi, et bon, je ne suis jamais passé par ces épreuves-là, mais des grands saints sont passés par ces épreuves. Eh bien, ils ont continué. Je pense à Saint-Pierre Chanel, qui est le patron de l'Océanie, qui a passé sa vie dans les îles du Pacifique. Il est mort à Wallis et Futuna, les îles Wallis et Futuna, pas très loin des îles Fidji, en plein Pacifique. Et les années qu'il a passées à Wallis et Futuna pour essayer de convertir les Indiens là-bas, eh bien, les autochtones, il n'a pas baptisé un seul adulte. Il a été assassiné. Il aurait pu se décourager complètement. Eh bien, il a été assassiné, il est mort martyr, et c'est celui qui l'a remplacé, qui a pris sa succession, qui a baptisé, qui a récolté tous les fruits qui avaient, des semences qu'avait plantées Saint-Pierre Chanel. Et c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de saints. C'est Saint-Jacques en Espagne qui est complètement découragé parce qu'il n'arrive pas à convertir les Espagnols. Alors, la très sainte Vierge Marie va lui apparaître à Saragosse, Notre-Dame du Pilar, Nuestra Señora del Pilar, Notre-Dame du Pilier, pour lui garantir que l'Espagne conservera la foi. Et à l'époque, il avait converti très très peu de monde. Donc ne pas nous décourager, mes bien chers frères. Seulement l'humilité garde plus sûrement les vertus que notre Seigneur inspire. Sans l'humilité, on ne peut pas garder ses vertus, c'est impossible. Passons à la page 32. La seule manière, dans page 32, de résoudre cette difficulté, disent les pères, est donc de dire que celui qui aime a déjà l'Esprit Saint, c'est-à-dire la charité, et qu'en le possédant, il mérite de le posséder encore davantage et d'avoir ainsi un plus grand amour. Attention, quand on parle de l'amour de Dieu ici, c'est l'état de grâce dont il s'agit, c'est-à-dire de la grâce sanctifiante, l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est pour ça que cette définition est très belle. L'état de grâce, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Monseigneur Lefebvre voulait qu'on simplifie beaucoup la définition de l'état de grâce. L'habitation en nous de la Sainte Trinité. Dieu vit en nous. Et quand Dieu vit en nous, par l'état de grâce, il vit en nous qui est trois personnes. Il n'y a pas que Dieu le Père qui vient en nous, Dieu le Fils. Dieu vit en nous. Quand on reçoit la Sainte Communion, on reçoit Dieu. Dieu vient en nous. Et Dieu, ce n'est pas simplement Dieu le Fils, c'est aussi Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Rappelez-vous la circumcision que j'ai déjà expliquée. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, les trois personnes sont séparées. Le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la même substance, un grand mystère. Donc, ils le possédaient au-dedans d'eux-mêmes. Il devait leur être donné d'une manière visible. Et ce n'est donc point sans raison que ce divin esprit est promis, non seulement à celui qui n'en a pas encore, mais à celui qui le possède déjà. C'est-à-dire quoi ? Lorsqu'on communie un état de grâce, on reçoit une augmentation d'une grâce qui est déjà là. Parce que je me confesse, par exemple, je suis déjà en état de grâce. Je n'ai pas de péché mortel à avouer depuis ma dernière confession. Je suis en état de grâce. La confession va augmenter en moi la grâce sanctifiante. La grâce sacramentelle du sacrement de pénitence va augmenter. Donc l'état de grâce va augmenter en degré, en charité. Le degré de charité que je vais avoir après m'être confessé, le simple péché véniel va être plus grand que le degré de charité que j'avais avant de me confesser. Il est promis à celui qui ne l'a pas, parce qu'il le possède, à celui qui l'a déjà, pour qu'il le reçoive plus abondamment. Donc notre Seigneur Jésus-Christ augmente en nous la grâce sanctifiante. C'est un autre passage important, troisième paragraphe de la page 32. Le Christ ici fait ses adieux à ses disciples et leur donne ses dernières recommandations qui regardent l'exercice des trois principales vertus théologales, foi, espérance et charité. N'oubliez pas que toute la foi catholique est fondée sur ces vertus. Donc quand je communie un état de grâce, je reçois pas simplement la foi, l'espérance et la charité, les vertus théologales, mais aussi les vertus cardinales, prudence, justice, force, tempérance, et toutes les vertus morales, avec pour commencer la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Vous voyez, au début, tout est fondé sur les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Foi pour croire, espérance pour prier et charité pour suivre la loi du bon Dieu. N'oubliez pas qu'on peut avoir la foi et l'espérance sans la charité, mais la charité ne peut pas exister sans la foi et l'espérance. Et donc, ces trois vertus qu'on appelle les vertus théologales parce qu'elles sont centrées sur Dieu. Dieu en grec c'est théos, théologal, la parole de Dieu, logos c'est la parole, Dieu, théos c'est Dieu, la divinité. Donc les vertus théologales, elles sont fondées sur Dieu, elles ont pour but de nous rapprocher de Dieu, d'augmenter la foi en Dieu, l'espérance en Dieu, la charité en Dieu. Et donc ces vertus peuvent augmenter de façon infinie. On ne peut jamais dire j'ai trop de foi, trop d'espérance, trop de charité, alors qu'au contraire, je vous ai déjà expliqué souvent que les vertus cardinales, la prudence, la force, la justice, la foi, la tempérance, sont des vertus qui sont
comme sur une ligne de crête. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. On peut avoir trop de prudence ou pas assez de prudence. Trop de justice ou pas assez de justice. Trop de force ou pas assez de force. Trop de tempérance ou pas assez de tempérance. Attention. Donc, concernant la foi, le Christ en parle au premier verset. Vous croyez en Dieu. Croyez en moi. Concernant l'espérance, verset 3. Tout ce que vous me demanderez, il vous sera donné. Et pour la charité, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, Dieu augmente d'abord la vertu de foi. Donc, c'est le premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Concernant l'espérance, c'est le verset 3. Après que je m'en serai allé, que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai, je vous retirerai à moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, je reprends parce qu'en fait, il y a une erreur là sur mon texte. Concernant la foi, c'est bien le premier verset, donc. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en moi, en Dieu croyez aussi en moi. Mais concernant l'espérance, ce n'est pas le verset 3, comme je viens de vous le dire, mais le verset 13, pardon. Quoi que vous demandiez à mon Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc tout ce que vous demandez à mon Père en mon nom, je le ferai. Là, j'utilise la traduction très belle de la Bible de le maître de Sacy. Donc les commentaires de la. De le maître de Sacy sont plus ou moins l'index, mais pas le texte. Le texte même de la Bible est écrit en excellent français. Le maître de Sacy est mort en 1684. Il a fait une traduction de la Bible qui est un très bon français. Et donc c'est le verset 13 qui dit: tout ce que vous demanderez, quoi que vous demandiez à mon Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et enfin, pour la charité, c'est le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez, ça c'est une phrase capitale. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous prétendez m'aimer, gardez mes commandements. Sous-entendu, si vous ne gardez pas mes commandements, vous ne m'aimez pas vraiment. C'est pour ça que les gens qui vous disent, monsieur l'abbé, j'aime le bon Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, de toutes mes forces, mais je ne m'occupe pas des commandements. L'important, c'est d'aimer le bon Dieu, j'aime le bon Dieu, et tout est bon comme ça. Mais je ne suis pas les commandements de Dieu, je vis tranquillement avec la femme de mon prochain, ou je vole, ou je tue, ou je fais des choses de ce genre. Attention, vous aimez le bon Dieu? Oui. Mais vous vivez avec la femme du voisin. Ah mais ça va pas ça, pourquoi? Parce que Dieu a dit, l'œuvre de chair ne désirera qu'au mariage seulement, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Hein, tu ne commettras pas d'impureté. Ah oui, mais j'aime bien le bon Dieu quand même. Non, vous n'aimez pas le bon Dieu, parce que vous prétendez aimer le bon Dieu par vos lèvres, mais par vos actions, vous prouvez que vous êtes un menteur. Celui qui dit, j'aime Dieu, mais qui refuse de suivre les commandements, il est un menteur. C'est pour ça que Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, vous prouvez que vous m'aimez en gardant mes commandements, et si vous ne gardez pas mes commandements, vous prouvez que vous ne m'aimez pas et que votre amour n'est qu'un amour de façade. Oui, donc on voit bien ici les trois grandes vertus théologales, la foi pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour suivre les commandements de Dieu. Il n'y a pas de charité sans l'application des commandements de Dieu. Donc la charité, encore une fois, ça ne consiste pas à aider les vieilles grand-mères à traverser les passages coûteux dans les grandes villes sans se faire écraser. C'est pas ça la charité. La charité, c'est d'aider le prochain à vivre dans l'état de grâce. Votre fils vit tranquillement avec la femme du voisin, ou vit tranquillement en concubinage avec une jeune fille qui n'est pas son épouse légitime. Ce n'est pas de la charité que l'accepter chez vous, de les accepter tous les deux chez vous comme mari et femme, alors qu'ils ne sont pas mariés, qui vivent dans le concubinage. La vraie charité consiste à leur faire comprendre qu'ils offensent gravement le bon Dieu, et qu'offensant gravement le bon Dieu, ils offensent aussi gravement leurs parents. Et donc il faut prier, mais demander, aider votre enfant à changer de vie. Vous n'allez pas accepter qu'il vive comme ça, sous prétexte que vous l'aimez. Et si vous dites, oh, c'est mon fils, je l'aime, et donc je laisse passer, je les reçois comme mari et femme, et je les mets dans la même chambre quand ils viennent nous visiter. Non, vous ne pouvez pas, parce que c'est moi, c'est vous qui péchez. Donc les pères font remarquer que ces trois vertus théologales sont unies entre elles. La foi engendre l'espérance et l'espérance la charité, que le monde ne peut recevoir. Les hommes charnels et mondains ne recherchent que les désirs terrestres et les vaines richesses, et ces personnes ne peuvent recevoir le Saint-Esprit qui est céleste, spirituel et divin, qui nous enseigne à mépriser les choses terrestres comme la vanité, à aimer, à embrasser les choses célestes comme véritables et divines. La prudence de la chair est l'ennemi de Dieu, dit saint Paul aux Romains, chapitre 8. Vous voyez, donc ça c'est absolument fondamental à comprendre. Si j'aime les choses du monde, je ne peux pas appartenir à Dieu. Si je cherche de façon déraisonnable, de façon constante, je cherche les honneurs, je cherche l'argent, je cherche l'orgueil, je ne peux pas à ce moment-là vivre un état de grâce, c'est impossible. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il est plus difficile pour un riche de rentrer au ciel que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Il est possible en soi d'être très riche et de rester en état de grâce, mais je pense que c'est pratiquement un miracle pour quelqu'un qui a trop d'argent, de rester en état de grâce. Sauf s'il utilise vraiment son argent pour aider de façon importante les gens autour de lui, qui garde lui-même une vie très simple et une vie frugale, ce qui est très très rare. Vous avez des grands saints qui ont eu des rois, par exemple, je pense à Saint-Louis. Bon, Saint-Louis devait avoir bien qu'il vivait dans la pauvreté, dans la simplicité, il avait, en fonction de ses... À cause de sa fonction royale, il avait des châteaux, il avait des choses comme ça, mais il gardait cette vertu de simplicité. On termine ce passage par un texte de saint Basile. Comme sur un miroir non poli, les images des choses ne peuvent être reçues et discernées, et un homme ne peut recevoir l'illumination du Saint-Esprit sans qu'il ait d'abord rejeté au loin le péché et les luxures charnelles. Donc, là encore une fois, il y a une faute. C'est comme sur un miroir non poli, les images des choses ne peuvent être reçues et discernées. De même, je vais dire ça comme ça, de même, un homme ne peut recevoir l'illumination du Saint-Esprit sans qu'il ait d'abord rejeté au loin le péché et les luxures charnelles. Vous voyez? Donc il faut vraiment demander au bon Dieu cet esprit de pauvreté, cet esprit de simplicité, cet esprit d'humilité sans lequel on ne peut pas plaire à Dieu, c'est absolument, absolument impossible. Avançons dans ces textes avec les versets 18 à 21 de saint Jean chapitre 14. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai aussi et je me manifesterai à lui. Encore des phrases capitales à bien comprendre. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est-à-dire, si je ne garde pas les commandements de Dieu, je n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ malgré mes grandes déclarations. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans suivre sa loi. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui suit la loi de Dieu. Donc encore une fois, si vous faites des tas de choses extraordinaires pour le prochain, en soignant tous les pauvres de la planète, en sauvant tous les migrants de la terre, mais que vous ne vivez pas, vous ne gardez pas les commandements du bon Dieu, votre amour est hypocrite. Et votre amour est hypocrite, qu'est-ce qu'il faut mieux, encore une fois, soigner tous les pauvres de la planète ou vivre en état de grâce? Il faut d'abord vivre en état de grâce, après vous pourrez commencer à vous occuper d'aider le prochain, en commençant par ceux qui sont proches de vous, évidemment, avant d'aller aider les gens de tout l'autre bout du monde. Peut-être commencer par aider les gens qui sont juste à côté de nous, les membres de notre famille qui en ont bien besoin. Dieu sait, moi, je le sais en tant que prêtre, combien de familles de la tradition, des familles nombreuses qui n'ont plus rien pour nourrir les enfants au 20 de chaque mois. Donc il faut aider ces gens-là, évidemment. Donc attention à cette phrase importante, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc si je ne garde pas les commandements, je ne peux prétendre aimer le bon Dieu. Alors voyons un petit peu le commentaire de ces parties-là. Comme au jour du jugement, le monde, c'est-à-dire ceux qui sont exclus de son royaume, le verront de leurs yeux, je crois qu'il a voulu surtout désigner ce temps de la fin du monde où il disparaîtra pour toujours des yeux des réprouvés. Et ce ne sera plus vu, et ne sera plus vu que de ceux qui l'aiment. Et s'il se sert de cette locution encore un peu de temps, c'est que ce qui paraît long aux yeux des hommes est toujours très court aux yeux de Dieu. Vous voyez, ici, notre Seigneur fait allusion à cette peine du dent qui est une peine incompréhensible, la peine de ne jamais voir Dieu. Et donc, au moment de pas simplement de la fin du monde, mais il disparaîtra pour toujours des yeux des réprouvés dès le jugement particulier. Attention, si quelqu'un meurt en état de grâce, en état de péché mortel, pardon, quelqu'un meurt en état de péché mortel, avant sa mort, il peut changer de vie. Une fois qu'il est mort, c'est fini, il n'y a plus de temps, je vous l'ai déjà expliqué, parce qu'il n'est plus dans le temps, mais dans l'éternité. Il meurt en état de péché mortel, eh bien, il dit déjà, à ce moment-là, Dieu va disparaître pour toujours aux yeux de cette personne qui meurt en état de péché mortel. C'est ce qu'on appelle la peine du temps, la peine par laquelle cette personne ne verra jamais Dieu si longtemps que Dieu est Dieu. C'est une peine qui se rajoute à la peine des sens, la peine du feu. Deux peines en enfer, la peine du feu, qui est la peine du feu éternel, la peine des sens, et la peine du temps, qui est la pire, la peine de jamais voir Dieu. Il veut parler ici non de la vie présente, mais de la vie future, et tel est le sens de ses paroles. La mort de la croix ne me séparera point de vous pour toujours, mais ne fera que me cacher un instant à vos yeux. Donc notre Seigneur annonce déjà sa résurrection, et celui qui sera au ciel jouira de la vision de Dieu. D'un Dieu fait homme, uni à l'humanité et crucifié. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, quand il est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité avec un corps glorieux. Les marques de sa passion étaient comme des joyaux extraordinaires sur son humanité, transformés par sa divinité. Le Christ agit ainsi, en bas de la page 32, après sa résurrection, quand il apparut à ses disciples, à ses apôtres, par sa présence corporelle, les enseignant, leur donnant une grande joie, mais aussi à la Pentecôte, en envoyant visiblement le Saint-Esprit sous la forme de langues de feu. Puis invisiblement, en nous visitant souvent du ciel, en nous communiquant ses dons célestes, c'est par la grâce sanctifiante et les grâces sacramentales, et visiblement au jour du jugement, quand ses apôtres viendront juger avec lui. Vous voyez, il y a toute une série de degrés. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître déjà à sa résurrection, par sa résurrection publique, le dimanche de Pâques, il va apparaître à ses disciples, à Sainte Marie-Madeleine, sa Sainte Mère, etc., mais aussi à la Pentecôte. Là, c'est le Saint-Esprit qui va arriver de façon visible sous la forme de langue de feu, mais invisiblement, notre Seigneur Jésus-Christ nous visite par sa grâce sanctifiante. Il est en nous par sa grâce sanctifiante. Il est présent partout par sa présence, par sa puissance, par son essence. Il est présent partout, et par sa présence, par sa puissance, il peut tout, par son essence, parce qu'il est la cause de tout, mais, dit saint Thomas, il est encore présent de façon plus familière en nous par sa grâce sanctifiante, en nous communiquant ses dons célestes. Et n'oublions pas qu'il reviendra de façon visible, cette fois-ci publique, au jour du jugement, à la fin des temps, quand ses apôtres viendront juger avec lui les vivants et les morts. Tropologiquement, moralement, donc le monde ne me verra pas avec l'œil des sens, mais avec l'œil de l'esprit, car il n'a pas cru en moi, il ne m'a pas reconnu comme le Messie. C'est terrible cette cécité spirituel qui frappe le monde moderne. C'est ce qui me frappe le plus personnellement le monde moderne. L'aveuglement d'esprit de tous ces gens qui sont couverts de biens matériels. Ils sont complètement aveugles pour toutes les choses spirituelles. Ils sont d'une extraordinaire clarté intellectuelle pour les choses matérielles, pour faire de l'argent, ils sont capables de faire des prodiges. Mais pour les choses spirituelles, ils ne voient rien. Ils sont aveugles. Donc, analogiquement, par rapport à la fin des temps, le monde ne me verra pas après le jour du jugement. Ne me verra pas après le jour du jugement glorieusement régnant au ciel. Pourquoi ? Parce que le monde sera. Les gens du monde seront en enfer. Les gens qui sont morts avec l'esprit du monde seront en enfer. En enfer, il n'y a pas la vision de Dieu, puisqu'il y a la peine du dent. Je ne veux qu'une chose, vous habiter, vous illuminer, vous diriger dans le bien par ma grâce vers la vie éternelle du ciel. Oui, là, les pères utilisent certains exemples qui sont magnifiques. Vous serez alors que je suis dans le Père comme le rayon de lumière dans le soleil. Un avec lui et vous en moi comme les sarments dans la vigne, et moi en vous comme la vigne dans le sarment, permettant à la sève divine et la vie de la grâce de couler en vous. Tant que les sarments, sont réunis au tronc de la vigne, eh bien ces sarments sont vivants. Ces sarments meurent immédiatement s'ils sont coupés du tronc. Et donc il faut être unis au tronc divin par la grâce sanctifiante. C'est la sève divine qui est représentée par cette grâce sanctifiante. Quand une branche n'a plus le contact avec la sève, elle va mourir. Elle va finir par casser parce que elle n'est plus solide. Elle perd toute sa solidité, toute sa force face au vent, aux tempêtes. Enfin, une phrase de Saint-Hilaire, « Le Christ est en nous comme nourriture par la participation à la Sainte-Eucharistie. » Vous voyez comment notre Seigneur Jésus-Christ veut venir en nous, pas simplement par sa résurrection, par la Pentecôte, par le sacrement de la confirmation, mais aussi par la grâce, toutes les grâces qu'il nous donne. La grâce sanctifiante, l'habitation en nous de la Sainte Trinité, mais aussi les grâces sacramentelles. À chaque fois que je communie, à chaque fois que je me confesse, tous les sacrements que je reçois augmentent en nous la grâce sanctifiante, et aussi ajoute une grâce spéciale et une grâce sacramentelle pour chacun des sacrements. Personne qui est mariée, par exemple, a besoin de grâce sacramentale spéciale que moi, je n'ai pas besoin en tant que prêtre. Mais j'ai la grâce sacramentelle du sacrement de l'ordre que les gens mariés n'ont pas besoin, dont les gens mariés n'ont pas besoin. Nous avançons avec les versets 22 à 27, chapitre 14 de Saint Jean. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que vous vous manifesterez à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. » Encore une phrase magnifique, là. « Nous ferons chez lui notre demeure. » Celui qui m'aime, qui ne m'aime point, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, du Père. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas. Vous voyez, c'est une magnifique considération sur l'amour de notre Seigneur. Ne vous troublez pas, petits enfants. Que votre cœur ne se trouble pas, votre cœur ne s'effraie pas. Comme nous devons méditer ces paroles. Votre cœur ne se troublera pas, votre cœur ne s'effraiera pas, parce que je vais venir faire ma demeure chez vous. Je vais venir habiter chez vous. Vous voyez ? Notre Seigneur Jésus-Christ vit dans l'âme sanctifiée, dans l'âme un tas de grâce. L'habitation de la Sainte Trinité, ça veut dire que Dieu transforme notre cœur en petit paradis. Dieu habite dans l'âme un tas de grâce. Qu'est-ce que vous voulez que fasse le démon contre une âme en état de grâce ? Il ne peut rien faire, sauf si j'ouvre la porte. La preuve de l'amour, ce sont les œuvres. L'amour de Dieu ne peut jamais être oisif. Dès qu'il existe, il opère de grandes choses. S'il refuse d'agir, ce n'est qu'un simulacre d'amour. Donc il faut prouver notre amour pour le bon Dieu par les commandements. Donc je peux être dans la paix dans la mesure où je garde les commandements du bon Dieu. Mais attention, cette paix dont notre Seigneur Jésus-Christ nous parle, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix du monde, ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. La paix du monde, c'est l'absence de conflits armés. Tu parles. Ce n'est pas du tout ça la paix de notre Seigneur Jésus-Christ parle. Ce n'est pas l'absence de conflits armés. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la paix de l'état de grâce. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vit dans l'âme, qui vit en état de grâce. C'est ça la paix de notre Seigneur. Saint Thomas d'Aquin l'appelle la tranquillité de l'ordre. Le rétablissement de l'ordre, la destruction de la révolution provoquée par le péché. La révolution va mettre la pagaille dans l'âme. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ remet de l'ordre dans l'âme, tranquillité de l'homme, de l'ordre, dit saint Thomas. Donc la paix, c'est la sérénité de l'âme, la tranquillité de l'esprit, la simplicité du cœur, le lien de l'amour, l'union intime de la charité. Celui qui n'aura point voulu observer ce divin testament de la paix ne pourra parvenir à l'héritage du Seigneur. Il ne peut espérer d'être en paix avec Jésus-Christ s'il est en guerre avec un de ses frères en Jésus-Christ. Et donc retrouver la paix, la paix n'est possible qu'en Dieu. Vous ne pourrez pas trouver la paix, vous ne pourrez pas garder la paix, vous ne pourrez pas jouir de la paix sans notre Seigneur Jésus-Christ. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, notre âme n'est pas en paix, ne peut pas être en paix et en guerre. C'est la guerre constante, on voit très bien dans le monde moderne. Pourquoi le monde moderne est en guerre tout le temps? Ils n'arrêtent pas de parler de paix à longueur de journée avec l'ONU et tous ces machins-là, l'UNESCO et tous ces trucs-là, des trucs maçonniques. Et en fait, il n'y a jamais eu autant de guerre qu'aujourd'hui. Ils parlent de paix tout le temps, ils sont en guerre tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il leur manque l'essentiel. Ils ont perdu le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit que en bas de la page 33, les pères font une union, expliquent le rapport entre les trois puissances de l'âme. Ici, on parle de la mémoire, l'intelligence, la volonté. Bon. plusieurs façons de classer les facultés de l'âme. On peut dire il y a l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible, mais on peut aussi dire qu'il y a la mémoire, l'intelligence et la volonté. Donc Dieu, par la Sainte Trinité, vient dans les trois facultés de l'âme, créée à sa propre image, pour y habiter, renouant en elle son image dépravée par les concupiscences. C'est-à-dire que la Sainte Trinité, la grâce sanctifiante, va, par la vertu de tempérance, qui va s'exercer sur les trois concupiscences par l'intermédiaire des vertus de pauvreté, chasteté et d'obéissance, va faire disparaître la concupiscence, au moins en partie. On aura toujours une concupiscence en nous, malheureusement, parce que le péché originel, les conséquences du péché originel sont toujours là, même après le baptême. Cependant, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce sanctifiante, va venir nous aider à lutter contre les conséquences du péché originel, contre les blessures du péché originel, surtout sur les concupiscences. Donc la concupiscence des yeux va être travaillée, va être remise en ordre, si vous voulez, en bon état par l'esprit de pauvreté, la concupiscence de la chair par l'esprit de chasteté, la concupiscence de l'orgueil par l'esprit d'obéissance. Donc Dieu, par sa propre image, va imprégner chacune des facultés de notre âme, l'intelligence, la volonté, l'irascible et concupiscible. D'ailleurs, cette force donnée par la grâce sanctifiante, jointe au don du Saint-Esprit, aussi jointe aux vertus cardinales. N'oubliez pas que l'intelligence va être éclairée par la vertu de prudence, la volonté va être éclairée par la vertu de justice, l'irascible par la force et la concupiscence, et le concupiscible par la tempérance. Donc ici, les pères disent qu'au Père est appropriée la mémoire, car il a conçu toute chose, produit le Verbe et engendré le Fils. Le Père réforme la mémoire quand il en enlève les apparences de vanité, et y amenant les apparences de choses divines pour qu'elles ne se souviennent que de Dieu, de son adoration et de son amour. Vous voyez ? Donc, le Père va purifier notre mémoire des choses du monde, des choses mondaines, des choses superficielles, pour ne garder que les choses qui plaisent à Dieu. Au Fils est appropriée l'intelligence, parce qu'il fut engendré par l'intelligence, et comme étant la parole de l'esprit, l'idée est le modèle de toutes choses. Le Fils réforme l'intelligence pour qu'elle ne pense plus qu'aux choses qui regardent le salut et la sainteté. C'est dans la sagesse, ça. L'utilisation de l'intelligence que pour les choses importantes. Faire un tri dans les choses, comprendre la hiérarchie des valeurs. Et enfin, au Saint-Esprit est appropriée la volonté. Parce qu'il procède par l'action de la volonté, l'amour du Père et du Fils, le lien d'union entre les deux personnes. Le Saint-Esprit réforme la volonté pour qu'elle aime et désire la même chose. Une âme sainte reflète continuellement qu'elle est le temple de la Sainte Trinité. Vous êtes le temple de Dieu vivant. Il faut comprendre qu'une âme en état de grâce, eh bien, chers frères, une âme en état de grâce, c'est une âme qui contient la Sainte Trinité. L'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est une définition très théologique, mais c'est une définition magnifique. Est-ce que je réalise que la Sainte Trinité habite en moi? Le Père habite en moi pour purifier ma mémoire. Le Fils habite en moi pour purifier mon intelligence. Le Saint-Esprit habite en moi pour purifier ma volonté. Donc notre Dieu s'incarne dans ma mémoire, Dieu s'incarne dans mon intelligence, Dieu s'incarne dans ma volonté par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autre note des Pères, il y avait dans l'ancien temple, le temple de Jérusalem, trois objets pour le service. L'autel pour brûler l'encens, le candélabre avec ses sept lampes et la table avec les pains de proposition. De la même manière, il faut dans une âme sainte un autel, un candélabre, une table. C'est magnifique ça. Un autel pour la prière, respirant de saintes louanges et de pieux désirs de Dieu. Un candélabre tout brillant, illuminé par les sept dons du Saint-Esprit. Et une table pour la bienfaisance et la charité. Et donc, quand on communique, quand on reçoit la Sainte Communion, il faut justement que ça augmente l'esprit de prière, augmente en nous l'infusion des sept dons du Saint-Esprit et augmente en nous le désir de faire participer au prochain les grandeurs de Dieu que nous avons reçues par la Sainte Communion. Voici que le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu. Saint Bernard enseigne qu'une âme sainte est un bout de ciel dans lequel brille le soleil de la charité, la lune de la continence, les étoiles des autres vertus. Une âme en état de grâce, c'est le paradis qui est déjà en nous. Rappelez-vous, les trois apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, au sommet du Tabor, c'est exactement la même chose. Ils ont à ce moment-là, ils voient la transfiguration. Transfiguration, c'est littéralement, ils voient la divinité, une partie de la divinité de notre Seigneur Jésus, qui sont comme au paradis. Eh bien, lorsque nous sommes en état de grâce, notre âme est transfigurée. Et il faudrait que, je mets bien cher frère, que ça se voit. Il faut vraiment que quand vous quittez l'oratoire, l'église, le dimanche, après la messe, après votre communion, il faut que votre âme soit transfigurée, que ça se voit. Il faut que vos enfants puissent voir, on voit que papa a communié. On voit qu'il a plus de paix, qu'il a plus de joie dans son cœur. Même s'il y a des tas de problèmes, des tas de difficultés de toutes sortes, nous battre pour continuer de garder la foi. Et je pense que ces passages-là sont très importants. Voyez. Demandons à la Sainte Trinité de purifier ce qui est encore à purifier dans notre âme. Bien sûr, on s'est purifié par la sacrement de pénitence, qui est indispensable. Si je suis en état de péché mortel, il n'est pas question d'aller communier sans être purifié d'abord par l'usage de la confession. Mais une fois que je suis en état de grâce, il faut encore augmenter la purification. C'est ce que va faire la Sainte Trinité dans mon âme par la Sainte Communion. Quand je reçois la Sainte Communion, je reçois la Sainte Trinité. Donc je vais avoir une augmentation de la purification de la mémoire, de l'intelligence, de la volonté, des racines, du concupiscible. Toutes les puissances de mon âme vont être comme illuminées. Nous terminons avec ce chapitre 14, versets 28 à 31, du chapitre 14 de Saint Jean. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles seront arrivées, vous croyiez. Je ne vous parlerai plus guère désormais, car le prince de ce monde vient et n'a aucun droit sur moi. Mais il vient afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a ordonné. Levez-vous, sortons d'ici. Ce que le Sauveur venait de leur dire, je ne vous parlerai plus guère, car le prince de ce monde est venu, ajouter à leur frayeur. Jésus, les voyant, sous cette impression, en entendant ces paroles, les conduit dans un autre lieu où la pensée qu'ils étaient plus en sûreté leur laisserait plus de liberté d'esprit pour écouter attentivement les grandes vérités qu'il avait à leur révéler. Rappelez-vous ce qu'il leur a dit au verset 27, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas. » Et là, on revoit l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses apôtres qui est extraordinaire. « Je reviens à vous. » Je m'en vais, mais je reviendrai. Ne vous découragez pas, parce que je vais ressusciter entre les morts. Et après, je monterai au ciel le jour de l'ascension, mais je reviendrai par le Saint-Esprit, avant de revenir à la fin des temps. Dans les choses divines, les choses sont différentes. Le Père n'est pas plus grand que le Fils en âge ou en taille. Il n'engendre pas une divinité différente de la sienne, mais communique à son Fils la même divinité qu'il a lui-même, car son Fils est égal à lui-même. Vous voyez, il y a consubstantialité des trois personnes divines, encore une fois. Le Christ reçut du Père le commandement de souffrir et de mourir. Mais il n'aurait pu vouloir autre chose que ce que voulait son Père, ne pouvant pécher à cause de son union hypostatique avec le Verbe et de la lumière de gloire par laquelle il voyait Dieu. Donc la volonté divine, humaine, pardon, est parfaitement soumise à la volonté humaine entre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence entre la volonté humaine et la volonté divine. De par sa volonté humaine, notre Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas mourir. Seigneur, s'il est possible, disait-il à son Père, Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi. S'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, non pas ma volonté, mais que la vôtre soit faite. Et là, c'est un des très, très grands mystères, le mystère de l'union, la volonté divine, la volonté humaine. Notre Seigneur est homme, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et en tant qu'homme, il ne voulait pas mourir. Parce que l'homme est attaché à sa vie, naturellement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, ne voulait pas souffrir. Cependant, il savait par sa volonté divine que son Père exigeait cette mort expiatoire. Et donc il a accepté que ma volonté ne soit pas faite, mais que la vôtre soit faite. Et donc il y avait cette union hypostatique entre l'humanité et la divinité, même sur la croix. Dieu aurait pu faire un miracle et demander à son Père d'envoyer une légion d'anges pour exterminer tous ses ennemis. Il ne l'a pas fait, il n'a pas voulu le faire. Alors, lisez cette phrase magnifique. Il ne peut pécher, ne pouvait pécher à cause de son union hypostatique avec le Verbe et la lumière de gloire par laquelle il voyait Dieu. Donc il avait cette lumière de gloire, ce qu'on appelle l'union hypostatique. Il était Dieu, donc il voyait Dieu tout en souffrant. Donc il allait cacher en quelque sorte sa divinité, c'est ce que disent les pères. Il cache sa divinité, il est toujours Dieu, mais il cache sa divinité pendant sa passion pour pouvoir souffrir davantage. Les bienheureux au ciel ne peuvent vouloir ou aimer autre chose qui déplairait à Dieu. Mais le Christ, en tant que viateur, c'est-à-dire qu'en tant que passant sur cette terre, avait la science infuse et pouvait réciter librement des actes d'amour et d'obéissance au commandement de son Père. « Je suis venu, ô Dieu, pour faire votre volonté. » En tant qu'homme, il est viateur. En tant que Dieu, il est éternel. Tropologiquement, quand Dieu ou nos supérieurs nous demandent une œuvre ardue, passons-nous devant Dieu comme victime de la charité et de l'obéissance et faisons le premier pas dans la volonté de Dieu. Celui qui a accompli la moitié de l'œuvre demandée a déjà bien commencé. Oui, donc on se sanctifie par l'obéissance, et voilà, surtout pour nous prêtres. L'obéissance à la volonté du bon Dieu, l'obéissance à ce que nous demande l'Église. Bon, le bréviaire, il faut le dire tous les jours. Nous devons le dire par amour pour le bon Dieu. Et c'est parfois une lourde charge. Passer une heure et demie tous les jours à dire son bréviaire, parfois on est bien fatigué, on voudrait bien aller se coucher. Il y a le bréviaire à dire. Eh bien, je ne me couche pas et je dis mon bréviaire parce que c'est ce que me demande le bon Dieu. J'aimerais bien pouvoir dormir un peu plus, mais non, il y a les fidèles qui m'attendent, je dois célébrer ma messe, eh bien, je me lève et je fais ce que je dois faire. Voyons. Vous voyez, mais bien, chers frères, comme il est important de bien comprendre toutes ces choses-là, relisez, encore une fois, je vous conseille beaucoup, après avoir écouté ces cours, relisez au moins le polycopier pour bien vous imprégner des paroles de ces pères de l'Église. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.